Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver par les temps qui courent. C'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir avec l'auteur Jean Hatzfeld.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te dire mariage.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Est-ce que d'avoir pu vriller à plus de 2 mètres au-dessus du sol rend les dégringolades du corps et de l'âme plus difficiles? Dans son mobilhome mal ordonné, Suzanne, ancienne athlète de haut niveau, contemple ses jambes bronzées au réveil comme des îlots de résistance et de beauté. C'est ici que la trouve votre dernier roman, Jean Hatzfeld, et c'est aussi ici que nous la rencontrons. Après, les temporalités et les géographies ne cesseront de se mêler dans les pages comme les cris de la foule dans un stade de Jeux Olympiques, guerre froide, Moscou 1980, Los Angeles 1984, guerre du Vietnam, Kaboul, Kirghizistan, les corps des sportifs, hommes ou femmes, n'évoluent ni en dehors du monde, ni en dehors de l'histoire et de la politique. Ils en sont parfois les instruments du spectacle. Ces corps, vous les regardez depuis la sublime précision du geste et de l'exploit sportif, jusqu'au calme et l'anonymat du vieillissement ou de la disparition. 2m10, c'est le titre de ce dernier roman. Il paraît en cette rentrée aux éditions Gallimard. Bonsoir Jean Hatzfeld.
Bonsoir.
Bienvenue. Merci beaucoup d'être là.
C'est moi qui vous remercie.
Chère Suzanne, je m'appelle Tatiana Alimkoul, mais tu m'as connue sous mon nom russe, Tatiana Itzvitkaya. Peut-être te souviens-tu, nous nous sommes rencontrés à Helsinki en 1982. Un journaliste français est venu la semaine dernière pour me poser un tas de questions. Il voulait tout savoir sur cette époque. C'est lui qui m'a rappelé ce concours d'Helsinki. Il y avait assisté et m'a demandé une foule insensée de détails. Il s'imaginait que j'y pensais chaque matin. J'espère que tu n'en gardes pas un mauvais souvenir et que cette lettre ne réveille pas des sentiments désagréables. Nous avons donc parlé de la dernière barre, de l'orage et de toi. Beaucoup de toi, bien sûr. Ce journaliste m'a parlé des soucis et des difficultés que tu affrontes depuis quelques années. J'ai abandonné le monde de l'athlétisme depuis longtemps. Je suis retournée chez moi, au Kirghizistan. C'est un petit pays inconnu. Je vis dans une maison en bois, peinte en bleu. Dans la rue, d'autres maisons sont rouges ou vertes. Elles se trouvent dans un village en montagne. Il fait très froid l'hiver. Le blanc s'accorde au paysage. L'été, les journées sont chaudes et en cette saison, les arbres se parent de belles couleurs. Une rivière coule dans le village. Nous aimons cette rivière. Il y a un lac plus haut, on s'y baigne en été. Partout autour, des dizaines de milliers de chevaux et de moutons. Les chevaux sont de bonne compagnie en période chahutée, nos moutons aussi, crois-moi. La montagne te voudrait du bien. Une chambre t'attend. Elle est meublée de tapis de chez nous et de jolies étoffes. Elle donne sur un jardin. Il est enfoui car je jardine mal. Les fleurs se disputent tant elles s'y plaisent. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Le temps que tu veux. On se promènera. On parlera seulement de ce que tu veux.
Do
C'est donc une lettre, Jean Hatzfeld, qui souffle sur la poussière des souvenirs au début de votre roman. On l'a entendu, on s'adresse ici à Suzanne, que vous nous faites découvrir dans un mobil-home, et on comprendra que c'est un endroit où elle atterrit après avoir subi des choses pas très agréables dans son existence. Et cette femme qui lui écrit, Tatiana, parle d'un journaliste qui est venu la voir pour l'interroger. Or, journaliste...
Je l'étais.
Ouais. Et même sportif.
Et même sportif,
et même initialement sportif. Voilà. Puisque le service des sports avec Serge Dana a été créé par vous, avec voilà. vous, à Libération. Comment cette lettre-là est arrivée pour vous dans l'écriture?
Je ne sais plus à quel moment, je ne sais pas si le livre... L'idée du livre commence avec la lettre ou ça vient juste après, mais voilà, il fallait que je trouve une raison pour que ces deux dames, ces deux filles se rencontrent, et j'ai trouvé cette lettre et j'ai voulu la faire simple parce que, comme vous disiez, Suzanne est déjà un peu abîmée, et elles ne se sont jamais rencontrées, des années ont passé, elles ne se sont jamais... n'ont jamais été en contact d'une manière ou d'une autre depuis, donc il fallait quelque chose de très simple pour attirer un peu l'attention de Suzanne, je pense.
Et ça met tout de suite le roman aussi sous un signe d'amitié. Moi, j'ai vraiment refermé ce livre en me disant que c'était une amitié avec toutes les dimensions qu'elle pouvait prendre, comme parfois on parle des amitiés entre les peuples ou des Jeux Olympiques comme le moment de l'amitié aussi sportive. Mais là, c'est un endroit plus intime que ça se situe. C'est la possibilité d'une amitié nouvelle par-delà les années.
Voilà, je pense que c'est ça le départ du livre, c'est d'imaginer qu'il eût été possible que deux personnes comme ça, qui se sont côtoyées, qui se sont affrontées très durement, qui se sont regardées, qui se sont méfiées l'une de l'autre, etc., dans le cadre d'une compétition très dure sur laquelle on reviendra peut-être, mais aient envie, enfin l'une des deux ait envie de renouer un lien. Par insatisfaction d'une certaine façon, par un manque de quelque chose, quoi, d'avoir admiré une personne qu'on a affrontée, ne pas lui avoir adressé une fois la parole. Alors ce journaliste est un peu le prétexte, parce qu'il lui dit visiblement que Suzanne, c'est un journaliste qui se balade, hein, donc il est allé voir Suzanne, il l'a vue en mauvais état, ou il a lu quelque chose à ce sujet, il lui raconte, et ça crée un déclic chez Tatiana, qui se dit, mais cette Suzanne, effectivement, puis comme visiblement c'est une belle personne, elle se dit pourquoi pas chez moi, peut-être que ça va lui faire du bien.
Est-ce qu'elles sont le symbole, toutes les deux, d'une réconciliation possible entre ces deux grandes sphères du monde qui se sont tant opposées comme elles se sont tant opposées, elles, athlètes?
Quand on écrit ce genre de livre, on aime l'imaginer, que ce soit possible et que ce soit cela. Je pense que ce n'est pas le cas, mais c'est possible que j'ai envie de ça. Donc, je l'ai imaginé un peu comme ça.
J'évoque la création de ce service des sports à Libération avec Serge Danet. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur le geste sportif ou sur les athlètes. Est-ce que vous y trouvez un plaisir particulier?
Oui, j'avais un énorme plaisir, enfin plusieurs plaisirs. Le premier plaisir était, et ça avait été un peu le contrat que j'avais eu avec, enfin la manière d'aborder les choses avec Serge Julie, qui était le patron de Libération à l'époque, c'était de lui dire, voilà, le sport n'intéresse que les sportifs, les lecteurs de Libération ont un a priori très défavorable par rapport au sport, et moi je me propose de tenter d'emmener par la main des lecteurs, méfiants et un peu hostiles, dans un univers qui vaut le coup, c'est-à-dire dans un univers qui est évidemment romanesque, qui est peuplé de mythes, de mythologie, de héros, de mafia, de langage beaucoup, de techniques, de travail, de tout cela, quoi, un peu comme le monde de la musique ou le monde des arts, etc. Et donc de l'amener là, dans cet univers pour qu'il puisse rencontrer un athlète au travail ou une compétition de haut niveau ou un athlète, un héros, un traître, une abîmation des corps, etc. Enfin tout cela, c'est un monde très 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 riche, le monde du sport, qui était très souvent ignoré. En particulier d'ailleurs par l'intelligentsia française, parce que les Américains n'ont pas du tout, par exemple les Américains ou les anglophones d'une manière plus générale, parce que les Britanniques sont pareils, n'ont pas du tout ces a priori contre le sport. Ils y rentrent très très facilement, il y a des très très grands romans sportifs américains. Mais voilà, donc c'était un peu ça. Il y avait ce plaisir un peu didactique de dire, ben voilà, on va vous emmener dans un monde et vous allez voir qu'est-ce que c'est que le travail du départ du 100 mètres, ou qu'est-ce que c'est que le travail du saut en hauteur, ou qu'est-ce que c'est que la glisse du pneu arrière pour un motard, etc. Et qu'est-ce que c'est que ces affrontements, qu'est-ce que c'est que cette haine qui peut survenir, qu'est-ce que c'est que la mémorisation d'un geste, la mémorisation mentale, qu'est-ce que c'est que la douleur, la corruption...
Ou l'exaltation, etc. Et la joie profonde.
Exactement, exactement.
Et alors, comment c'est reçu par Serge Julie à l'époque?
Alors lui, il a très très bien réagi, c'est quasiment le seul. Mais c'était son génie journalistique, il a senti qu'il y avait quelque chose, et donc il nous a effectivement donné carte blanche, et toujours protégé dans les premières années qui ont été difficiles dans cette communauté de gauchistes journalistes de Libération. Donc il nous a toujours protégé, nous a permis à Serge Danet, Jean-Pierre Delacroix, Homéric avec les chevaux, après, de tenter notre chance et d'y arriver plus ou moins.
Ça venait d'où le fait que le monde sportif, tout ce qu'on a décrit là à l'instant, vous tenez à cœur?
Depuis tout petit, j'ai été passionné par le sport. Je suis d'une famille nombreuse où mes frères et sœurs étaient tous musiciens ou intellectuels, enfin des brillants élèves. Moi, je l'étais un petit peu moins. Je traînais un petit peu par derrière. J'habitais dans une maison, dans un village. Il y avait un pré à côté. On jouait au foot, on grimpait aux arbres. J'ai fait toutes sortes de sports, à un niveau très médiocre d'ailleurs. De la vara, puis de la moto, puis tout ça. Ça m'a toujours intéressé, mais je n'étais pas capable, quand j'ai commencé cette petite aventure journalistique à Libération, je veux dire, j'étais obligé d'apprendre en même temps que les lecteurs. Je n'étais pas capable de leur expliquer tout cela, de les faire rentrer comme ça, avec un savoir de professeur ou de guide, ou d'une connaissance quelconque. Donc moi, ça a été le deuxième plaisir. Le plaisir, ça a été d'emmener des lecteurs, mais le deuxième plaisir, c'est de m'emmener aussi, et d'aller rencontrer des directeurs techniques qui m'expliquaient des choses, des médecins, des kinésithérapeutes, de voir beaucoup de champions. J'ai vu beaucoup de champions parce qu'à l'époque, c'était l'époque bénie pour les journalistes parce qu'ils n'étaient pas encore dans le monde de la communication. Donc, ils n'étaient pas encore protégés par des attachés de presse, des conseillers, des avocats, des chargés d'affaires qui contrôlaient tout.
Donc, des conversations telles qu'elles sont relatées par l'athlète Tatiana avec un journaliste français, elles pouvaient avoir lieu dans la longueur, voilà. Éventuellement dans l'intimité, dans la tranquillité d'une vraie conversation.
Exactement. Par exemple, les Jeux Olympiques de Moscou qui sont évoqués, on rentrait dans le village olympique, on allait dans le restaurant, on allait dans la cafétéria, on allait sur le stade d'entraînement et on voyait un athlète kényan, on disait ça, je voudrais vous poser quelques questions. S'il était d'accord, il acceptait. Maintenant, il faut passer par des demandes écrites, il faut attendre 3 jours, il s'est contrôlé, etc. Donc, il y avait aussi ce plaisir qui a disparu par la suite du contact et du dialogue formidable qu'on a pu avoir avec des champions, leurs coachs, leurs entraîneurs, leurs kinés, etc. Quoi. Donc moi, j'ai beaucoup appris. Ça m'amusait beaucoup d'apprendre. Et d'ailleurs, pour ce livre, je suis allé voir un directeur technique pour l'haltérophilie pour qu'il m'apprenne beaucoup de choses parce que j'étais un peu ignare, etc. Donc il y a ce double plaisir à la fois, quand on est gamin, d'avoir beaucoup aimé le sport d'une manière très gamine, comme ça. Et puis après, de rendre plus concret, enfin de rentrer un petit peu dans la connaissance de ce qu'on a pu voir et ce qui a pu vous émerveiller, quoi, le travail, voilà, le travail du saut en hauteur ou le travail du leveur de fonte. Quoi.
Ce qui fait aussi que dans votre livre, Jean Hatzfeld, ce sont des êtres qui existent par-delà le spectacle sportif qu'ils donnent à voir. Et aujourd'hui, vous le dites, en effet, tous les mots et les discours des sportifs sont extrêmement cadenassés, soumis à des règles de communication très strictes, si bien qu'ils existent par des corps très muets, des corps presque publicitaires et uniquement cela, alors que là, vous leur donnez une très grande profondeur. Je disais, vous leur donnez l'éclat du geste sportif, le tout début de leur passion et des entraînements jusqu'à leur disparition plus ou moins tragique ou leur vieillissement. C'est-à-dire, il y a vraiment du temps dans ces corps-là.
Il y a du temps et je pense qu'il y en avait plus à l'époque parce que maintenant, non seulement les discours sont un peu contrôlés, mais même les carrières sont contrôlées, les existences sont un petit peu contrôlées aussi. C'est-à-dire qu'on prépare, par exemple, la pré-carrière des athlètes. Il y a des conseillers maintenant, on les prépare bien à ça, ce qu'on appelle la petite mort. Les sportifs aiment beaucoup ce mot, la petite mort qui vient après la compétition. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ils étaient livrés à eux-mêmes, ils disparaissaient. Voilà, c'était un peu comme au cinéma, enfin, les grandes stars d'Hollywood qui, à un moment donné, disparaissent dans l'alcool, dans l'anonymat, dans la dépression, etc. C'était plus sauvage à l'époque, probablement. C'était plus libre, c'était plus ouvert et à la fois plus sauvage que maintenant, où vraiment on se rend compte qu'on ne peut pas... On ne peut pas laisser, justement parce qu'ils sont très regardés, parce qu'ils sont des exemples, parce qu'ils sont des vecteurs de publicité, etc. On ne peut pas les laisser sombrer, comme on a pu laisser sombrer des athlètes à cette époque-là.
Vous évoquez la petite mort. Le roman s'ouvre sur une femme qu'on trouve donc dans un mobil-home et qui regarde ses jambes. On sent qu'elle a un rapport avec son corps qui est très incertain. Il reste ses jambes, mais on sent que le reste est abîmé. Est-ce que c'est aussi un roman sur... justement, le corps vieillissant.
Ah oui, c'est le corps...
Au-delà des sportifs, j'entends.
Ah oui, c'est un corps vieillissant. Alors, ça se voit plus sur les sportifs, parce que les sportifs, à un moment donné, on mesure leur capacité, puisqu'un corps peut sauter 2,5 m ou pas, etc. Et puis, il va sauter seulement 2 mètres, puis 1,90 m, puis il va disparaître. Donc, c'est plus mesurable et c'est peut-être plus spectaculaire pour le... j'allais dire la propriétaire du corps, parce qu'elle le voit, elle le sent, c'est palpable, alors que chez nous, on sent notre vieillissement par des détails. À un moment donné, on sent qu'on est fatigué, alors qu'à l'époque, au lendemain d'une cuite, alors qu'à l'époque, on ne l'était pas, ou qu'on supporte moins la chaleur. C'est un peu comme ça, mais c'est moins palpable. Chez un athlète, c'est immédiat. D'abord, il y a une sanction immédiate, c'est qu'on n'est plus sélectionné. Et puis après, on le voit. Et donc, on essaye d'y pallier. On essaye d'y pallier, alors soit en résistant, soit en sombrant, quoi. Enfin, en oubliant.
Soit en accompagnant, parce que finalement, vous faites des portraits, on va y venir, de plusieurs sportifs dans ce roman de Maître 10. Et peut-être que Tatiana, qui écrit cette première lettre, c'est la plus paisible avec ce corps qui vieillit. Et donc, on voit des personnes qui acceptent différemment leur corps vieillissant, d'autres qui n'ont pas eu le temps de le voir vieillir parce qu'ils ont été déportés, on y viendra. Mais en tout cas, il y a quelque chose aussi de vous regarder, Jean Hatzfeld, des manières différentes, finalement, de voir son corps se modifier.
Oui. Alors, Tatiana, d'abord, elle avait vécu un premier échec, parce qu'en fait, c'est une gymnaste à l'origine. Elle avait rêvé de gymnastique. Et elle a été détournée vers le saut en hauteur, parce qu'à un moment donné, elle a pris 4 ou 5 cm, qui était rédhibitoire pour la gymnastique. Donc, elle a déjà vécu un peu cela. Et puis, je pense, j'en suis pas sûr, mais je pense que venant d'une minorité, elle est kirghize dans une Union soviétique qui n'aime pas beaucoup les minorités, elle est déjà plus solide, elle est déjà plus prête à affronter ce qui va lui arriver, parce qu'elle sait qu'au pays kirghize, il y a des gens qui vont au goulag parce qu'ils sont kirghizes et que ses parents ont été déportés, etc. Donc, c'est une fille de déportée, ses grands-parents ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on les a envoyés sur la ligne de front. Donc, elle est beaucoup plus solide, je pense, elle est beaucoup plus prête à cela. Et puis, elle le dit aussi, elle a la chance, quand elle est évincée, très brutalement d'ailleurs, parce qu'en Union soviétique, quand une athlète disparaissait, on l'envoyait disparaître, souvent d'ailleurs pour camoufler la dégradation
de son corps.
Et puis les signes visibles de peut-être de dopage ou d'excès dans les entraînements, etc. Donc quand elle disparaît, elle a cette chance de pouvoir retourner chez elle. Et donc elle renoue avec quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment connu, parce qu'elle est partie très gamine dans ces centres d'entraînement, dans cette école de saut en hauteur, c'est vers 12-13 ans. Et donc elle revient et elle retombe amoureuse de son enfance et de son pays, de ses moutons, de sa maman.
Est-ce que vous dépeignez avec une très grande douceur cette espèce en effet de retour à un Éden qu'on a nécessairement perdu, hein, cette enfance, le temps est de toute façon passé, mais n'empêche qu'elle parvient à quelque chose dans ce vieillissement, comme si la vie était aussi une possible boucle, Jean Hatzfeld.
Oui, elle y arrive, ça c'est vrai. Bref, oui.
Elle y arrive, vous dites avec un sourire, comme quelque chose que vous convoitez.
Oui.
C'est vrai.
Oui, je trouve formidable cette Tatiana, enfin, la manière dont elle réussit quand même. Je suis encore épaté par cette idée qu'elle ait pu inviter cette Suzanne et qu'elle ait pu, avant, retourner, renouer avec sa maman, qu'elle avait abandonnée, enfin qu'elle n'avait pas abandonnée, qu'elle avait
qu'elle avait été arrachée,
et puis renouer avec ses boutons, se relancer dans la culture de son jardin, etc. Je trouve ça extraordinaire parce qu'elle a une sorte de paisibilité peut-être un peu asiatique d'ailleurs, hein, peut-être. Mais je pense aussi que c'est fondé par tout le background qu'elle a. Hein. Je répète quand même, ses grands-parents sont déportés de Vladivostok vers le Kyrgyzstan. Ils ne sont pas originaires du Kyrgyzstan parce qu'ils sont coréens. Puis Staline, à un moment donné, les déporte. Après, il meurt en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents ont des ennuis. Enfin, tout le monde que ça. Et donc, elle sait faire le bonheur avec ce qu'elle a. Hein. C'est pas une Texane qui arrive une tuile à un moment donné. Quoi. Elle prépare à ça.
C'est pas Suzanne.
Non, c'est pas Suzanne.
Et c'est un background, comme vous dites, que vous faites exister. Jean Hassel, je le disais, au fur et à mesure du roman, on passe d'une époque à l'autre, d'une géographie à l'autre. Les corps, comme ça, dans votre langue, vont très vite. Et nous les suivons. C'est une sorte de complexité que vous avez construite à partir de parcours d'athlètes que vous avez rencontrés. Je sais que, par exemple, Jeanne Aléos, qui travaille avec moi, on a cherché le nom de ces athlètes. On a croisé dans d'autres critiques littéraires se rapportant avec romans des journalistes qui ont aussi cherché le nom, comme s'il y avait un effet de réel très puissant. Ça s'est passé comment à la construction de ces personnages?
Alors, ces personnages n'ont aucun référent, hein, ils n'existent pas.
Mais peut-être plein de référents.
Peut-être plein. Et alors, c'est toujours comme ça. Hein. La fiction, c'est toujours plein de référents. On a beau dire qu'on invente des personnages, on les invente toujours à partir de personnes qu'on a rencontrées ou lues ou imaginées au cinéma, etc. Donc, il y a un cadre qui est réel, donc les guerres, etc. Il y a un cadre plus restreint qui est réel, ce sont les grandes compétitions. Les Jeux Olympiques de Moscou existaient, ceux de Los Angeles, les Championnats du monde d'Helsinki, etc. Et quelques personnages secondaires ressemblent beaucoup à des personnages que j'ai pu rencontrer. Par exemple, toutes ces athlètes, ces femmes qui sautent le concours de 100 hauteurs à Helsinki ou aux Jeux Olympiques, ressemblent à des championnes que j'ai pu rencontrer à ce moment-là.
Celle qui sourit, par exemple, qui sourit avant la course d'élan.
Ah non, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu une sauteuse sourire avant la course d'élan. Non, leur rival, voilà, leur rival. Il y a une Maria qui ressemble à une Sarah, il y a une Ulrike qui ressemble à une Ulrike. Enfin, donc il y a des personnages secondaires qui peuvent ressembler, mais les quatre personnages, non. D'abord, il n'y a jamais eu de sauteuse en hauteur américaine de très haut niveau, il n'y a jamais eu d'haltérophile américain de très haut niveau. Des haltérophiles kirghiz, il y en a eu, mais des petits poids, ce qu'on appelle des petites catégories, poids-plumes, etc. Mais le poids lourd, non. Non, ils n'ont pas existé. Il n'y a pas eu non plus cette histoire que j'espère possible, qui est de complicité autour du sautoir. Quoi. Ça, c'est un geste qui m'a été reproché, d'ailleurs. Parce que des gens m'ont dit, mais c'est complètement idiot de dire ça, c'est impossible. Je ne sais pas si c'est impossible.
Parce qu'elles se regardent, parce que presque elles s'encouragent en fait entre deux sauts. Et c'est très beau, au contraire. Moi, je trouve que la puissance de la fiction qui, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui rêve à une réconciliation post-guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, ben de même, vous faites de la compétition à un moment où en fait, ça ne pourrait être autre chose que la seule haine entre adversaires.
Voilà.
Quoi.
Voilà. Donc c'est un peu entre les deux, parce que je respecte quand même une règle numéro un de la haute compétition qui est l'isolement, la concentration, la bulle, la concentration mentale sur soi, sur ce qu'on a à faire, sur ses gestes, sur etc., sur le placement, la précision du placement, tout ça. Donc tout ça, je le respecte. C'est pas une bande de copines là qui se mettent à sauter et qui s'encouragent mutuellement. On n'est pas à la plage.
Mais elles sont curieuses, elles se regardent.
Elles se regardent. Mais ça, je pense que ça, c'est vrai. Elles se regardent parce qu'on voit des tas de gestes, on espère des tas de gestes de faiblesse, on espère des gestes de nervosité. On se épie beaucoup et on s'espionne plus à l'entraînement, etc., pour voir comment s'y prend tel ou tel rival. Hein, comment il appréhende la chose, le placement des mains sur la barre, tiens, il les met plus rapprochés, ou il recule d'un pas, ou la courbure du dos, etc. Donc ça, c'est de l'espionnage. Mais au moment du dur, c'est-à-dire de la compétition elle-même, on épie des gestes de faiblesse ou des gestes de nervosité, de méfiance, de manque de confiance, etc. Parce qu'on bluffe aussi un peu. Hein. Donc il y a beaucoup de bluff, on essaie d'impressionner, on essaye de déconcentrer peut-être, etc. Et donc, et même d'ailleurs, quand il y a ce geste extraordinaire que moi je n'ai jamais vu, mais que j'ai imaginé possible, où c'est Tatiana, pour la beauté de la performance, c'est-à-dire qu'elles arrivent toutes les deux à 2,7 m, lui donne un conseil, parce que c'est aperçu que partait d'un peu trop près vers la barre, il manquait un peu de recul et donc elle avait un peu resserré ses enjambées, donc elle crispait un peu sa courbe. Tatiana lui fait un petit geste pour lui dire de reculer d'un mètre. Ça, c'est elle. Donc ça, paraît-il que c'est impossible, je veux bien le croire, mais c'est parce qu'on a un moment extraordinaire de la compétition où elles sont toutes les deux prêtes sur le point d'affronter un record du monde. Donc, pour la beauté de la geste, Tatiana le fait, quoi. Mais c'est pas du tout. Si, il y a eu aussi à un moment donné, ça je pense que c'est possible, c'est quand Tatiana devient championne olympique chez elle, donc c'est une Kirghize qui devient championne olympique chez elle à Moscou, les Occidentales qui, elles ayant été éliminées, donc ne sont plus dans la tension du saut et de la compétition, sont contentes pour elles, sont vraiment contentes pour elles, parce qu'elles voient cette fille qui est kirghize, qui est asiatique, dont elles savent un petit peu les difficultés qu'elle a pu vivre, etc. Elles sont australiennes, elles sont italiennes, etc. Et elles sont contentes pour elles.
Moi, je suis sûre que ça existe. Moi, voilà. Je suis pas la seule à pleurer quand Nadal prend dans ses bras son adversaire, je crois, avec une grande sincérité, pour le féliciter. Bon, il a gagné, c'est plus facile, mais je suis sûre qu'à cette hauteur de la compétition, ça existe.
C'est évident. Non, je voulais moi juste dire pendant la durée de la compétition. Après, c'est sûr qu'il y a des amitiés formidables, oui.
Le concours du 100 hauteurs fut marqué par l'étonnante personnalité de l'Américain Forsbury, qui, après avoir conquis le titre olympique avec 2,24 m, tente trois fois 2,29 m, soit 1 cm de mieux que le record du monde de Brumel. Mais il échoue. Carruthers, États-Unis, est deuxième avec 2,22 m, et Gavrilov, Union soviétique, 2,20 m, troisième. Sainte-Rose ne peut franchir 2,12 m, et avec 2,9 m, il se classe dixième. Le style de Forsbury est étonnant, résumons-le. Il prend son élan en biais, s'élève du pied droit, comme pour un saut en ciseaux, effectue ensuite en l'air un demi-tour, le dos tourné à la barre, les épaules les premières, passe cette barre. Pierre Salviac a rencontré ce jeune Américain, Forsbury, qui mesure 1,95 m pour 84 kg, qui est âgé de 21 ans, et il lui a demandé pourquoi il sautait de cette façon. Oh, pour la simple raison que je ne suis pas capable de faire comme les autres, le rouleau ventral ne me convenait pas, et comme en ciseau je n'améliorais pas mes performances, et bien j'ai cherché un autre style. C'était il y a 5 ans. D'autres athlètes vont-ils sauter comme vous maintenant?
Not too many. Once I get past,
vous savez, je ne crois pas. Quand on possède un style, on n'en change pas facilement. Par contre, beaucoup de jeunes ont adopté ma méthode, mais il leur faudra longtemps pour réussir. Quant à moi, eh bien, j'espère battre le record du monde.
It will take a while before they learn.
Richard Fosbury, vous pouvez dire quelque chose en français?
Bonjour, mes amis.
Au fond du jardin se dressait un entrepôt de tôles dont elles franchirent la porte rouillée. Une verrière sale filtrait une lumière blafarde qui accentuait l'immobilité du lieu. Tout seul, un poêle chauffait une sorte de vestiaire en contreplaqué équipé d'armoires métalliques et de lavabos de récup. Elles s'étonnèrent de découvrir un trampoline qu'elles s'empressèrent d'étrenner. Un sautoir patientait sous la verrière, lunaire au milieu de l'espace vide. Elles se mirent à glousser en se jetant à la tête les vieux cubes en mousse du matelas de réception. Le Fosbury, les filles n'en avaient jamais discuté, ni avec leur entraîneur, ni en famille, bien qu'il ne quittât jamais très longtemps leurs pensées qui tournoyaient en contorsion dorsale. Elles savaient ce sujet tabou et dangereux. À peine l'évoquaient-elles à voix basse au réfectoire et au dortoir lors des compétitions, parce qu'ils se murmuraient, et ça les angoissait, que les Allemandes de l'Est ou les Bulgares s'y initiaient déjà. L'instinct l'emportait sur les démentis de leur staff. Aucune n'hésita quand des gens un peu louches, se disant du ministère, se présentèrent chez elles pour leur proposer cette immersion. Ça valait le coup d'entrer dans la clandestinité d'un entrepôt blafard, en périphérie d'une ville paumée dans les montagnes, loin de la famille et des copines, pour gagner les centimètres qui changent tout. Maya les rassembla. La technique est l'outil de travail de l'athlète. Parfois, il faut en changer. On se contrefiche de savoir qui a inventé la pince ou le tracteur, nous allons faire pareil. Ce que vous avez appris jusqu'ici, ça vous sera utile, mais vous allez l'oublier. Et oui, à commencer par la trajectoire. À la pointe d'un bâton, elle traça sur le sol deux lignes menant jusqu'au sautoir. l'une curviligne, l'autre droite, oblique et démarrant sur le côté. Elle cocha sur chacune une douzaine de marques comme autant d'enjambées. Trajectoire du ventral que vous maîtrisez, c'est pourtant la dernière fois qu'on en parle. Trajectoire du Fosbury, elle vire en accélérant. C'est demain qu'on l'attaque. Allez courir dans le pré d'en face avant le dîner. Oust.
Joël Hatzfeld, on entend ici un deuxième extrait de votre roman 2m10 dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre et juste avant, un reportage où Fosbury lui-même, en octobre 1968, explique sa technique et dit « Bon, finalement, je ne suis pas sûr que les athlètes vont changer sa technique parce que quand on saute d'une manière depuis des années, on ne change pas si facilement. » Or, à l'entraînement, on entend que c'est exactement ce qui est en train de se passer, loin de cet entretien radiophonique en 1968. Ce qui est épatant, c'est que vous parvenez à nous faire ressentir par la fiction la manière dont un geste de saut peut être éminemment politique.
Voilà.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que tout était politique à l'époque, même un geste sportif. Et c'était très très symbolique, je trouve, de la guerre froide. La guerre froide, c'est pas des Kalachnikovs, c'est pas des bombardements, c'est autre chose. Et voilà, à travers un geste sportif un peu incongru, parce qu'il a été, il est apparu aux yeux du monde d'une manière surprenante. Hein. On a vu ce grand escogriffe comme ça se tourner, se présenter de dos comme ça. Les gens n'y croyaient pas. Hein. On regardait ça, les gens n'y croyaient pas. C'était des jeux d'ailleurs extraordinaires, les Jeux de Mexico, parce que faut pas oublier que c'est aussi les athlètes noirs qui ont et le gant, etc. Et donc, il y a ce geste, une invention. Souvent, les gestes sportifs sont inventés d'une manière très, très bizarre. Hein, c'est presque le hasard, parfois. Ça m'a toujours passionné, d'ailleurs. Par exemple, pour lancer le disque, on le lance d'une manière, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a l'idée de tourner sur lui-même pour donner plus d'élan, et hop, tout le monde adopte cette technique. Il y a beaucoup de gestes où le ski, à un moment donné, on fait la position de l'œuf, etc. On se demande pourquoi il a fallu attendre 50 ans pour le faire, ou pourquoi, c'est assez surprenant. Et donc, il y a ces gestes sportifs, et se pose la question, pour l'Union soviétique, de qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'on devine bien qu'il est l'avenir, et d'autre part, il est américain. Donc se pose la question, et la question est dramatisée par le fait que les pays satellites du bloc socialiste sont plus ouverts que l'Union soviétique, c'est-à-dire que les Bulgares, voilà, eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner les Allemands de l'Est, etc., et aussi de battre les Soviétiques, parce qu'il y a quand même une rivalité très forte au sein du bloc socialiste. Et donc, les Bulgares, les Allemands de l'Est, etc., adoptent beaucoup plus vite. Et donc, les Soviétiques ont beaucoup plus de mal à convaincre d'une manière idéologique et politique leurs ouailles, enfin leurs athlètes, leurs coachs et tout ça, que c'est le capitalisme, c'est l'Occident, c'est le mal, c'est etc. Et que la vertu, la vérité et la véritable performance se trouvent du côté du ventral qu'ils ont toujours travaillé et pour lequel ils ont excellé aussi. Il y a aussi cette idée que on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'on a formé toute une génération de sauteurs et on va leur dire du jour au lendemain que c'est foutu pour eux parce que c'est pas les mêmes qui vont pouvoir utiliser de techniques. Et donc il y a des réticences bureaucratique, politique, idéologique très forte à cela. Et ils font comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire ils s'en sortent par l'hypocrisie qui consiste à travailler clandestinement. Donc sous la protection et la surveillance du KGB, ils montent ce centre d'entraînement clandestin dans des montagnes kirghizes à côté d'un chantier militaire qui est interdit au public pour initier une bande de gamines plutôt douées de 12-15 ans, donc encore 12-14 ans, donc encore, j'allais dire, malléable. Voilà, souple et tout ça, pour les initier à cette technique capitaliste, quoi, qui va à un moment donné réapparaître et dont ils vont essayer de s'approprier. Donc il y a tout ce travail et cette dissension et ce... Parce que cette Maya qui
est l'entraîneuse.
Qui est l'entraîneuse, elle a failli aller au goulag pour avoir dans un symposium d'entraîneur prôné ce. Elle, tout naturellement, elle est technicienne, elle voit bien que c'est l'avenir et elle dit devant un parterre d'entraîneurs, voilà, maintenant on va travailler ça, c'est une autre manière, une autre approche de l'élan. C'est notre approche de l'accélération, de la puissance, du saut, etc., de la, enfin, ce qu'on appelle la translation entre l'horizontal et le vertical. Et on va s'y mettre. Et là, on a failli l'envoyer au goulag, on a hésité parce que son père est un héros de guerre. Et donc, finalement, on l'envoie faire le contraire, c'est-à-dire initier des futurs champions à travailler clandestinement ce geste capitaliste.
Ce qui vous permet deux choses en tant que romancier, Jean Hatzfeld, c'est à la fois de créer ce paysage vraiment que j'ai eu énormément de plaisir à lire, ce centre d'entraînement, la poussière au-dessus des matelas, une lumière très particulière, la nature et la montagne dehors, et en même temps une sorte de métaphore, de métonymie, c'est-à-dire que cette conversion idéologique au Fosbury, c'est aussi d'une certaine manière comment cet empire idéologique politique se fissure, comment en effet secrètement on fait un pas ou non vers le capitalisme, sans le souligner complètement, c'est-à-dire que pour vous dans le roman, vous faites du Fosbury quoi, une possible fin de cet empire ?
En tout cas, le début des failles, ça c'est sûr. Ils n'étaient plus capables. Ils ont été capables jusqu'à probablement la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été capables de nourrir leur propre technologie, leur propre... Mais après, ils n'étaient plus capables. Ils étaient quand même beaucoup trop sclérosés. C'était une bureaucratie. On empêchait les chercheurs de chercher, les enseignants d'enseigner, etc. Donc, il y a une déperdition énorme de l'intelligence. Et donc, ils étaient en retard. Ils prenaient de plus en plus de retard. Donc, ils passaient leur temps à copier clandestinement ou régresser, ils régressaient beaucoup. Et cette régression avait quand même des limites. Dans un premier temps, quand il n'y a pas du tout d'information, les gens ne le savent pas. Mais quand il y a la confrontation, et le sport était à l'époque le seul moment de vraie, véritable confrontation.
Et d'ouverture du regard sur le monde.
D'ouverture, on voyait bien à ce moment-là que ce qui allait se passer, c'est que les sauteuses en hauteur allaient prendre 10 cm sur les occidentales. Et sur les bulgares, ce qui était encore pire. Et donc, il fallait réagir, parce que là, le monde le voyait. Tant que c'est un peu clandestin, on peut toujours dire au peuple soviétique, c'est l'enfer à côté, c'est l'enfer ça, mais chez nous, c'est le bonheur, etc. On n'y croit pas beaucoup, mais enfin, on n'a pas beaucoup de moyens de comparer. Mais là, il y a la compétition et là, c'est spectaculaire. Quoi. Donc,
et aussi, avec cette histoire de Fosbury, donc ça vous permet de décrire l'entraînement, la manière, là aussi, dont, par exemple, le personnage de Maya prend sous son aile, accompagne des jeunes filles dans ce moment particulier où elles se préparent à la compétition, et de décrire minutieusement les gestes. Jean Hatzfeld, est-ce que là, c'est un reste de l'art journalistique ou au contraire l'épanouissement de l'art du romancier, ce regard si précis sur les gestes sportifs?
Un peu des deux. J'avais commencé comme journaliste sportif, justement parce que je pensais qu'un des meilleurs moyens pour prendre par la main un lecteur, c'était le faire entrer dans la technique. Il fallait pas seulement raconter des héros, raconter des personnages ou même raconter du langage. Il fallait aussi raconter de la technique parce que ça pouvait l'intéresser. Donc, on avait déjà un peu commencé comme cela. Mais après, si vous voulez, j'essaye de montrer... que ça peut être poétique, en fait. Je ne veux pas employer des grands mots, mais que ce geste, le geste peut être poétique. Exactement comme un danseur, comme quelqu'un à l'opéra. Voilà, il y a de la poésie dans cette gestuelle.
Et que c'est peut-être de là d'où vient notre émotion de spectateur du sport. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on frissonne? Oui. Quand une athlète se prépare à la course pour passer une barre, qu'est-ce qui fait qu'on frissonne quand une ligne d'arrivée est franchie par un sprinteur? Et c'est peut-être de capter la relation entre cet effort et notre émotion.
Oui, je pense tout à fait, parce que à part une petite catégorie de spectateurs qui ne vibrent que pour la victoire, c'est-à-dire qui sont supporters d'un athlète ou d'une équipe, etc. Mais les autres, c'est vrai que quand on est scotché devant des scènes olympiques, etc., on s'en fiche un petit peu de savoir si c'est un tel. Et on est pris par à la fois la dramaturgie, c'est-à-dire les relations entre les uns et les autres, et puis par cette beauté du geste.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Seul en lice, Chapdan s'avance en se balançant d'une jambe sur l'autre, une serviette rouge et jaune sur les épaules, le cou blanchi de magnésie. au sol, près de la barre, il pose une peluche en feutre blanc et gris, un chameau ou un cheval. Il se met à tourner autour de la barre, main tendue vers elle, lui parle en kirghize, articule distinctement des mots d'une voix qui ne se veut ni hostile ni craintive. On entend qu'il ne prononce pas de phrases rituelles ni de mots sacrés. Il parle, et ce qu'il dit paraît simple, puis s'interrompt, comme s'il attendait une réponse. Au coup de sirène, il se frappe 8 fois les épaules sans un regard pour le staff au fond de l'estrade. Sa stature se fige jusqu'au silence. Il plisse les yeux, semble s'assoupir debout, insouciant de la pendule qui égrène les secondes de son temps réglementaire. « Appelle tes parents », chuchote son grand-père qui sait que sa grand-mère lui a appris comment convoquer les esprits de personnes qui lui ont été bienveillantes. Il se penche sur la barre. Main droite, main gauche. Elle ne crochette ni ne cramponne, mais serre en douceur plus d'un quart de tonne. Ses poumons aspirent l'air, le compriment. Son cou enfle. La barre s'élève, s'immobilise après une rotation cassée des poignets. Les yeux se plissent, les fesses descendent sans précipitation presque jusqu'au sol, cuisses repliées qui vibrent d'impétuosité. Pas un souffle dans la salle. Dans le coin des kirghizes, Tatiana regarde, hypnotisée, main dans la main avec sa voisine. Les jambes se redressent d'abord en bref à-coups, le fessier puis le torse s'élèvent, les jambes se tendent tandis que la barre reprend son ascension, s'arrête une deuxième fois au niveau des clavicules. On sent son énergie monter et s'accumuler en haut du corps. Il la contient. Il aspire à la douleur qui l'attend. Il sait qu'il va réussir. Un cri rauque jaillit de sa gorge quand il propulse la fonte au-dessus de sa tête en un geste d'une violence inouïe, la tient à bout de bras. Sa silhouette frémit sous l'effort, sauf le visage, souverain, presque indifférent à l'action. Cri, hurrah, tout le monde debout. Shabdan lâche l'alter devant lui qui rebondit en roulant, il la salue, remercie la salle et s'éloigne en dandinant les épaules, dansant d'un pied sur l'autre, agitant ses mains au-dessus de sa tête pour remercier des êtres invisibles, sans la moindre attention pour Vladimir Igounov ni les autres vaincus. Dans la soirée, coup de tonnerre, déflagration lors de la remise des médailles qui tournera en boucle sur les télévisions du monde entier. À l'appel des trompettes, côte à côte derrière les hôtesses et les officiels, le trio des médaillés se présente solennellement devant le podium. Après ses deux rivaux, Shabdan hisse d'un saut caprin sa carcasse sur la plus haute marche. Sa moustache embellit son sourire facétieux. Le public se lève pour scander son nom. La délégation soviétique de rouge vêtue ovationne son triomphe et la prouesse de sa dernière levée, son 53e record du monde. Dans son coin, le clan kirghize s'égosille. Tatiana bat des mains et rit.
Quelques notes de musique traditionnelle kirghize qui font suite à un troisième extrait, Jean Hatzfeld, de votre roman 2m10. Cette fois, on est passé de l'autre côté, du côté de la terre, des forces obscures qui permettent à cet athlète de soulever plusieurs centaines de kilos de fonte. Comment ça s'est imposé à vous que ces deux disciplines seraient celles des 4 athlètes dont vous faites le portrait dans le roman, une discipline de l'air et l'autre discipline de la lourdeur et du sol?
Ce n'était pas pensé parce que au départ, il n'y avait que 2 sauteuses. Je n'avais pas pensé aux haltérophiles. Je pensais faire un livre sur ces deux sauteuses, etc. Et puis, j'ai voulu un drame, probablement. Et ce drame ne pouvait venir que d'un autre athlète. Donc, j'ai imaginé ce geste fort sur le podium. Donc, il a fallu que je choisisse un sportif. Et j'ai choisi un haltérophile, probablement par réminiscence des Jeux de Moscou, où j'avais été fasciné par le tournoi olympique d'haltérophilie. J'avais découvert ça, j'avais été fasciné. J'y allais tous les jours, même si j'écrivais pas. J'étais totalement subjugué par ce qui se passait.
Ça tenait à quoi ?
Parce que j'avais pas imaginé ça possible. Je n'avais pas imaginé que des corps aussi lourds, aussi puissants, aussi musclés, puissent être aussi fragiles. Parce que c'est un peu paradoxal, puisse être aussi fragile et puisse avoir une relation aussi compliquée avec leur barre, c'est-à-dire leur fonte. Je n'avais pas imaginé ça. Je pensais que c'était des gens qui arrivaient, qui soulevaient des poids et qui s'en retournaient. Et celui qui avait soulevé le plus lourd avait gagné. Mais je n'avais pas imaginé la peur, l'appréhension, la joie, le dialogue, tout ça que j'embellis un petit peu, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup d'haltérophiles ont ce dialogue aussi sophistiqué et
métaphysique,
aussi sympathique. Métaphysique
presque, voilà. Magique aussi avec leur barre. Enfin, il y a vraiment aussi tous les ancêtres. Vous faites venir des croyances populaires. Enfin, d'un seul coup, ça devient en effet une relation qui va au-delà de juste soulever des kilos.
Voilà. Mais ce que j'avais vu, par contre, c'était la peur. Donc, j'avais vu beaucoup de peur. J'avais vu des haltérophiles qui arrivaient avec la serviette sur la tête pour pas la regarder. C'est-à-dire pour la découvrir qu'au dernier moment, un peu comme les boxeurs qu'on amène sur le ring, protégés capuche, par un entraîneur ou une capuche, etc., pour qu'ils ne voient pas l'adversaire tout de suite. Donc, j'avais vu ça. J'avais vu aussi des gens insulter la barre. Et où, donc, à la fois l'agressivité, la peur, je l'avais vu. Je n'avais pas imaginé, évidemment, ce côté métaphysique. Donc, il y a ça. Donc, j'ai imaginé cet haltérophile. Et puis, après, Randy est arrivé, c'est-à-dire son adversaire est arrivé un peu par hasard. Il lui fallait un drame. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais disons que, par exemple, l'haltérophile américain n'avait pas sa place au début, a trouvé une petite place par la suite et a grandi dans le livre petit à petit.
Comme quoi ce désir de réconciliation, parce que ce sont aussi deux hommes, on ne va pas dérouler tout le roman, mais qui se retrouvent à un endroit, c'est très très fort dans ce livre-là, Jean Hatzfeld.
C'est, disons que l'idée de la hantise était en fait, sans que je sache vraiment, un peu le moteur de ce livre. Donc cet Américain, finalement, il est hanté, peut-être encore plus fortement que les autres, par la disparition, par l'absence, par le fait, la culpabilité, parce qu'il est chrétien, et donc lui se réfugie dans la religion, et par la culpabilité d'avoir ignoré, d'être passé à côté de quelque chose. C'est-à-dire que lui, Américain, abruti à l'époque, un blanc américain, nationaliste, raciste, etc., très fort, etc., il n'a aucune considération, il n'a aucun regard, il ne peut avoir aucun regard et pour un rouge, c'est-à-dire un communiste, et pour un asiatique, c'est-à-dire puisque son père avait été au Vietnam, etc. Donc il est comme ça dans une espèce de bulle de bêtises, d'ignorance de l'autre, etc. Et puis les années passent et il se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose, parce que ce personnage de Chabdan, donc de ce héros haltérophile kirghize, non seulement l'a battu, était plus fort, mais en plus était très intrigant, était très sympathique, se positionnait. Ce n'est pas dans des rivalités bêtes et méchantes, mais au contraire dans un dialogue et dans la construction d'une relation avec sa barre, etc. Et donc tout ça revient petit à petit avec la culpabilité, etc. Et il est hanté, en fait, il est hanté. Et il découvre un peu par hasard sur Wikipédia que cette personne qu'il a ignorée avait disparu quelques heures après leur concours au goulag. Et donc, voilà, il décide de faire une espèce de pèlerinage et revient visiter. Je trouve c'est peut-être lui qui fait le plus grand chemin, en fait. C'est lui qui part de le plus loin parce qu'il est vraiment abruti et assez antipathique au départ. Et puis, petit à petit, il est aussi fragilisé par un accident. Moi, je pense que les accidents fragilisent souvent les gens. Alors, quelquefois, ça peut les rendre aigris, c'est négatif, mais quelquefois, ça peut les rendre adoucis et plutôt plus gentils. Et donc, lui a eu un problème cardiaque dû à ses excès d'haltérophiles. Hein, c'est beaucoup de cas d'haltérophiles meurent très jeunes à cause de cela. Ils soulèvent trop de fonte, quoi. Et donc, il affaiblit par ça, et le fait d'avoir eu deux crises cardiaques le rend plus ouvert d'une certaine façon, je pense que.
Pour quelqu'un qui a tant écrit sur les guerres, tant du point de vue des victimes que des bourreaux, est-ce que ce livre-là, c'est le roman de la fin des guerres?
Non. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tous ces hommes, toutes ces femmes, mettent fin, d'une certaine manière, aux guerres passées. Vous le dites, ils ont des hantises, et ils sont hantés par des conflits qu'ils n'ont parfois pas pu voir ou qu'ils n'ont parfois, en tout cas, pas embrassés. Et puis, c'est vraiment un roman de la réconciliation, du dialogue, de l'amitié, quoi.
C'est un roman de... Oui.
Moi, j'ai vu la fin des guerres.
Elles se sont éloignées.
L'éloignement des guerres,
voilà. Elles sont éloignées grâce à des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont capables de prendre sur elles, par amitié, par bonté, quelquefois. Moi, je crois beaucoup à la bonté, après en avoir manqué beaucoup, d'avoir côtoyé beaucoup de situations qui manquaient de bonté. Donc, je reviens un peu là-dessus. Je pense que la bonté, la générosité, mais aussi une certaine volonté de vivre sa vie, enfin, d'avoir des vies, fortes, belles, etc. C'est ce qu'ils essayent. Randy, il est abîmé, etc. Mais il a décidé de voyager, d'aller dans ce Kyrgyzstan. Tatiana et Sue essayent de trouver quelque chose dans leur montagne. Donc c'est le désir très fort de profiter de sa vie après avoir failli la perdre d'une manière ou d'une autre, soit la régression, soit la mort, etc. Oui, il y a ça. Ces personnes arrivent individuellement à éloigner leur guerre.
Et à les dépasser d'une certaine manière. Ouais. Dans la première lettre que Tatiana envoie à Sue, en tout cas celle qui ouvre le roman et qui fait que cet éloignement des guerres a lieu à la fin, elle dit « J'habite dans un pays, un petit pays inconnu ». Bon, c'est aussi ça qui existe très fortement dans votre livre, Jean Hatzfeld, l'apparition du Kyrgyzstan, pour ceux qui le connaissent très très peu ou de très loin, et son histoire et son rapport avec l'URSS, avec Moscou. Est-ce que c'était l'une des motivations? C'est pas, vous dites, finalement, l'haltérophilie est arrivée un peu par hasard, Chabdan aussi, mais il se trouve que ce Chabdan-là, il était kyrgyz.
Oui.
Est-ce que le moteur était aussi de faire exister ce petit pays-là?
Pas du tout. Mais quand même, dans l'inconscient, enfin dans un coin de la tête, il y avait l'idée de trouver un petit pays. Hein. Donc j'avais cette idée de prendre un athlète d'une minorité d'Union soviétique et de chercher laquelle après. Voilà. Et donc j'ai regardé. L'Asie centrale m'intriguait beaucoup parce que je la connaissais pas. En fait, je la connaissais pas. J'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Donc je cherche un peu. Et le Kyrgyzstan était le seul pays qui n'exigeait pas de visa. Donc j'ai tapé sur Opodo, j'ai trouvé un billet d'avion pour le lendemain et je suis parti comme ça. Et là, il m'a pas fallu 20 minutes pour comprendre que j'étais au bon endroit.
Qu'est-ce que vous avez trouvé là qui, forcément, dans le livre, allait être au point juste?
Alors je débarque et je trouve cette ville de Bishkek qui est d'une beauté extraordinaire, une beauté stalinienne si je puis dire. Hein. C'est le contraire de Florence, hein. c'est des grandes avenues, c'est des monuments, c'est ça. Mais c'est peuplé d'Asiatiques extrêmement gentils et sympathiques, des parcs et tout ça. En plus j'y arrive pendant la canicule, il fait un temps magnifique, tout le monde est bien habillé, enfin c'est extraordinaire. Et je monte dans les montagnes et là je trouve ce que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est des beaux paysages. Donc la montagne, des lacs, de l'altitude, des chevaux, des moutons, beaucoup de moutons. Moi, j'ai beaucoup aimé la Bosnie pour ça, j'ai beaucoup aimé la Haute-Loire pour ça, j'aime beaucoup le Giono pour ça.
Et probablement, vous aimez aussi beaucoup l'écrire. On sent la jubilation qu'il y a à écrire la nature, à écrire des gosses qui courent là-dedans avec les moutons et les chevaux. Les retrouvailles, vous le disiez tout à l'heure, avec la mer, c'est aussi les retrouvailles avec cet Éden-là, très, très plein de vivants, végétales et animaux. Un plaisir d'écriture aussi là-dedans, Jean Hatzfeld.
Oui. À la fois le plaisir du geste sportif et à la fois le plaisir du paysage, c'est moteur. Enfin, c'est l'occasion, quoi. L'occasion d'écrire ce qu'on aime, hein, d'écrire ce qui vous émeut. Moi, je suis toujours ému quand je me balade en Bosnie, je suis beaucoup moins ému par Sarajevo que par les paysages des collines. Et c'est pareil un peu au Rwanda. J'ai toujours été fasciné. Je ne devrais pas dire ça parce que c'est un petit peu choquant, mais je veux dire, j'ai toujours été fasciné par le contraste qu'il y avait eu entre l'histoire du Rwanda, donc le génocide, et la beauté des paysages. Quoi. C'est le contraste est perturbant. Quoi. Ce sont des collines. C'est toujours des collines, des marais, etc. Et là, c'est des collines, des lacs, etc. La Bosnie, c'était pareil, des collines et des rivières.
Et les sous-sols, des histoires qu'on se raconte qui sont beaucoup moins bucoliques.
Et voilà.
Vous dites, Jean Hatzfeld, qu'en tant que journaliste, vous êtes complètement fasciné par les Jeux de 1980, Mexico, et aussi ces points levés des athlètes noirs qui revendiquent politiquement dans un moment sportif leur lutte. Ici, c'est un petit fanion de l'athlète kirghiz qui est sorti au moment de la remise des prix et qui dit le rapport à l'indépendance, le farouche désir de voir exister ce pays-là en dehors de l'URSS. Est-ce que les deux gestes se répondent ? Est-ce que votre athlète kirghiz, ce sont les athlètes noirs de Mexico, le point levé ?
D'une certaine façon, oui, parce qu'ils ont le même passé, grosso modo. Ces deux personnes parlent au nom de générations précédentes. Lui, son père a été tué parce qu'il était comme ça, son arrière-grand-père a été déporté, etc. Chabdan, et les Noirs américains, leurs aïeux étaient esclaves, et leurs parents ont été dans des ghettos, etc. Donc ils parlent au nom de générations, ça c'est tout à fait. Ils sont là et à un moment donné, ils s'insurgent et symbolisent une lutte parce qu'ils profitent de quelque chose l'un et l'autre, hein, c'est-à-dire la notoriété de la tête de haut niveau qu'ils viennent de gagner, et ils utilisent cette notoriété pour défendre quelque chose, pour rappeler un souvenir, soit des esclaves, soit des déportations, etc., et pour essayer de faire bouger les choses. Donc effectivement, ils se répondent tout à fait.
Et ils profitent d'un moment de spectacle sportif où tout est censé ne résonner que par la paix, pour dire que ce n'est pas aussi lisse et qu'il y a des choses en guerre. Finalement, elles ne sont pas si éloignées que je voulais le dire tout à l'heure. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui ? Casser le spectacle sportif et médiatique pour dire que des choses et des luttes ont lieu ? Ou est-ce que ce serait moins possible, pour reprendre vos regrets tout à l'heure, Jean Hatzfeld ?
Bon, les athlètes d'aujourd'hui ont à affronter un problème qui est peut-être plus difficile que la répression d'antan.
C'est la pub.
C'est la pub et la communication. Donc, à la fois au niveau des relations amicales qu'on peut imaginer entre les athlètes, il faut surmonter son ego, il faut surmonter son égotisme et son égocentrisme et ses intérêts particuliers, monétaires, etc. Et à la fois pour défendre une cause, c'est-à-dire défendre une lutte, celle de ses parents, de ses grands-parents, je pense que ça va être plus difficile pour eux de passer outre cela, parce qu'ils sont formatés depuis tout petit à l'idée qu'il faut penser à soi, qu'il faut défendre ses intérêts, qu'il faut battre l'autre, etc., et puis surtout qu'il faut engranger. Donc mettre en péril cet engrangement est peut-être plus difficile qu'affronter la menace du goulag, je pense.
Merci beaucoup Jean Hatzfeld. 2m10, c'est le titre de ce roman qui est paru en cette rentrée aux éditions Gallimard.
C'est moi qui vous remercie.
Au son ce soir, c'était Mathieu Leroux, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et absolument quand vous voulez sur franceculture.fr pour réécouter cette émission, pour trouver la liste des morceaux diffusés, des indications sur les archives, écouter les émissions d'avant, même nous écrire. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et aussi vous abonner au podcast de l'émission Par les temps qui courent. Je remercie Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Léos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture. Kabi prani, kabi wadila, kabi wedela, kabi praki, kabi prani, kabi wadila, kabi wedela. Cotas de então a recordar, agindo pela nação. Aleia, conda o azul na cabulue, cabiué, cabi. Cambadia, cambadia, ulu, mangola, cabi, guanhe. Cambadia, cambadia, ulu, mangola, cabi, guanhe.